Data, chère Data, toi dont on entend parler si souvent, toi qu'on dit grosse et qui pourtant échappe à nos comportements, toi qui es devenu le nouvel âge du numérique, toi qui nais du monde des mathématiques et de la statistique, t'es emparé de celui du grand public, nous avons essayé de comprendre en quoi tes interprétations visuelles peuvent nous éclairer ou nous égarer. Sont-elles des objets de réflexion ou de manipulation ? Notre invité pour aborder ce sujet passionnant du data journalisme et de la data visualisation est Karen Bastien, du studio parisien We Do Data. Et vous, chers auditeurs, peut-être non initiés, ne vous inquiétez pas, nous avons concocté une foule de ressources à retrouver sur le site cpu.pm. Bonjour Karen Bastien, vous êtes data journaliste au studio We Do Data. Oui. Donc vous êtes cofondatrice. C'est un studio qui analyse et interprète les données pour raconter des histoires ou éclairer sur des sujets. Pourriez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les activités de We Do Data ?
We Do Data aujourd'hui propose d'accompagner des médias et beaucoup d'institutions publiques sur la production d'informations visuelles. Ces informations visuelles, elles sont très grandement portées par des chiffres, mais ça peut être également des processus, des comment ça marche, ce qu'on appelait jusqu'ici infographie, de façon plus basique. Et ces productions, elles peuvent prendre beaucoup de formats aujourd'hui, c'est ça qui est riche. Bien sûr, le format interactif, des applications, des sites internet, des formats qu'on dit fixe, essentiellement pour le papier, et puis des formats de photographie, de gifs animés, de vidéos, donc c'est assez varié.
Qu'est-ce qui a changé selon vous l'accès aux data, en fait, cet accès un peu facilité grâce au web? Comment ça a changé le journalisme selon vous, la façon de faire du journalisme?
Ça change la façon de faire le journalisme sur deux plans. Le premier plan, c'est que ces données qui étaient effectivement très mal accessibles jusqu'ici, les journalistes du coup qui ont plutôt en France un profil littéraire s'en approchaient peu. Les journalistes questionnaient peu les chiffres. C'était une matière un petit peu qu'on nous donnait via des rapports, des communiqués de presse et qu'on reprenait in extenso sans trop les interroger. Au contraire de tout le reste de la matière qui faisait le sel de nos enquêtes. Et puis, les robinets à données se sont ouverts. Des données ont été de plus en plus disponibles sur le web, effectivement, mais surtout via le mouvement mondial de l'open data qui vise, qui promeut la libération des données publiques. Et une fois qu'en fait tous ces robinets ont été ouverts, que toutes ces données ont été disponibles, il était de plus en plus difficile aux journalistes de faire comme s'il n'y avait pas de données. Ils avaient de la matière première pour faire des enquêtes, pour croiser des données. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération qui a décidé en fait de s'emparer de ces données et vraiment de mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est un métier où la technique et les outils sont assez importants, mais en tout cas qui a décidé de s'interroger sur cette grande masse de données et ce qu'elle pouvait raconter du monde.
Au sein de We Do Data, vous avez une équipe pluridisciplinaire, mais du coup, comment vous faites pour vérifier la fiabilité de vos données ? Est-ce que vous avez des personnes qui analysent ? Comment ça se passe en fait au sein des équipes ?
Effectivement, on a différents profils et des profils qui sont complémentaires, notamment dans l'analyse dont vous parlez. Je garde, moi, la casquette un peu plus éditoriale, c'est-à-dire que quand on se met à enquêter sur un sujet, je vais toujours essayer de garder la question des angles, la question de pourquoi on va passer du temps sur ce fichier toujours en tête, parce que c'est l'histoire que j'ai, moi, un petit peu toujours au top de mes priorités. Je suis entourée de profils de qu'on dit aujourd'hui data scientist, donc ce sont des gens qui sont de profil un peu ingénieurs, mathématiciens, statisticiens, qui, eux, vont avoir une technicité sur les statistiques et qui, face à des grandes masses de données, vont pouvoir m'accompagner sur une analyse quantitative très pointue, et de cette analyse quantitative on va voir si voilà, moi je vais les confronter au contexte, aux données. Je fais aussi beaucoup confiance aux gens qui travaillent sur le design et le développement, qui sont les deux autres compétences qu'on retrouve dans l'équipe, parce que ce sont des gens qui sont pas forcément au cœur de la donnée au tout début du projet, mais qui vont devoir rendre compte visuellement et interactivement des histoires, et du coup qui sont un peu nos premiers lecteurs. Donc on va dire que le tamis, il se fait un peu à différents niveaux d'un projet data. C'est bien sûr à la source, ça reste quand même un travail journalistique. Donc, on va dire que c'est moi et mon équipe de data journalistes qui vont être un peu quand même en première ligne de la data. Donc, on a exactement les mêmes réflexes hein, que lorsqu'on fait une autre enquête. Quelle est la source de cette donnée? Est-ce qu'elle est fiable? De quand date la donnée? Comment elle a été récupérée? À quel moment? Par quel procédé? Sur quel périmètre? Enfin voilà, on questionne les choses. Voilà. Et puis après, effectivement, on a un accompagnement parfois face à des grosses bases de profils plus techniques.
Vous avez parlé de design et je pensais au travail de Stéphanie Posavec et Georgia Lupi. Je ne sais pas si vous connaissez leurs échanges Dear Data. Elles ont fait un peu de la data un espace d'expression poétique et artistique. C'est un très chouette travail. À votre avis, quelle place tient l'esthétique dans le métier?
Il tient une place très importante parce que ce que vont voir les gens en premier, c'est pas votre enquête. C'est pas les chiffres, c'est les formes, les couleurs, les effets visuels. C'est l'accroche visuelle, mais tout le travail va être que cette accroche visuelle, elle soit au service du fond. Si vous avez juste une pure accroche visuelle et derrière, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de data, tout ça n'était qu'un effet waouh, on a perdu. Et puis je pense que le data journalisme se perdrait beaucoup à ne faire ou à ne compter que sur le design pour sauver ses histoires, vous voyez. Donc... le travail permanent, en tout cas dans notre équipe, c'est toujours cette espèce d'équilibre fond et forme qu'on cherche en permanence en essayant de mettre l'esthétique au service de l'histoire, de trouver la bonne interactivité, la bonne icono qui va vraiment porter les chiffres et porter les datas. Et c'est vrai que vous faisiez référence au travail de Stéphanie. Il y a aussi, moi, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est tous les ans le travail de Nicolas Felton qui fait un rapport annuel sur lui-même. Et je trouve vraiment très intéressant toutes ces démarches de designers qui s'emparent de leurs données personnelles pour en rendre compte de façon visuelle. Et notamment, il y a un travail de Nicolas Felton qui a retracé toute la vie de son père qu'il a peu connu à travers en fait toutes les datas qu'il a pu retrouver sur son père, que ce soit les bulletins de notes scolaires, les villes où il a vécu, les factures qu'il a payées. Enfin, dès qu'il trouvait de la donnée sur son père, il en a fait un très bel ouvrage. Ça, c'est des démarches de designer que je respecte beaucoup et qui sont très inspirants pour nous. Après, c'est juste voilà, de toujours garder en tête cet équilibre fond et forme qui, je pense, est très structurant de notre métier.
Donc finalement, c'est rassurant, la data, c'est pas juste un traitement d'une information, mais elle peut être poétique, elle peut être artistique, elle est narrative, elle est vivante en fait finalement. Quelle est la data vise ou un travail au-delà de Nicolas Felton qui vous a vraiment inspiré ou vous dans votre quotidien, une réalisation qui vous a surprise?
Moi, la personne qui, de toute façon, reste assez fondatrice de ma démarche, alors elle est plus du côté journaliste, mais il a mis le design au service des histoires. Pour moi, ça reste David McCandless, parce que son livre, donc Information is Beautiful, qui est également son site internet et qui a été traduit en français par DataVision, est vraiment le livre qui a montré qu'on pouvait parler de tous les sujets en data et en design. Et il a fait un peu exploser les frontières qu'on avait jusqu'ici, et c'est pour ça qu'on utilisait aussi ce terme un peu plus restrictif d'infographie. En gros, l'infographie restait cantonnée à des thématiques économiques, à des thématiques scientifiques. En gros, voilà, c'était visiblement les deux seuls secteurs qui émettaient de la data et sur lesquels on pouvait produire des graphiques. Et dans son livre Data Vision, vous avez 50 histoires de maladies, de sociologie, de société, de géopolitique. Voilà. Il montre qu'en fait, n'importe quel sujet peut aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans un monde qui produit énormément de données sur tout, on peut raconter, voilà, presque sur tous les sujets des choses en data, et je trouve que c'est le fait d'avoir aboli ces frontières où on restait un petit peu trop cloisonné, ça a vraiment été, il est clair que ce livre et David McCandless ont vraiment été fondateurs de ce nouveau mouvement et de ce nouveau terme d'ailleurs de data visualisation qui a un petit peu comme un, c'est vrai que ça c'est peut-être un peu trop un buzzword aujourd'hui, mais ça reste un mot qui pour moi reste fondateur d'une nouvelle ère de l'information visuelle.
Oui, c'est vrai que David McCandless, à travers ce bouquin que j'ai aussi, dont je suis fan également, j'avais vu une vidéo TED où il soulevait justement, et c'est ce qui m'avait intéressé, et je vais vous poser la question, la question de l'éthique en fait. Il montrait comment les données, de la façon dont on allait les présenter visuellement, pouvaient être interprétées par le public d'une façon ou d'une autre. Et comment aussi les données, comme vous disiez, pouvaient servir une histoire et alerter le public sur un sujet sociétal, un sujet écologique ou voilà.
Je pense que sur les données, il faut avoir, pour moi, le même œil critique que vous pouvez en avoir face à une image. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres que vous allez proposer en visualisation, c'est d'une certaine façon votre vision du monde. C'est pour ça que pour moi, finalement, le data journalisme, c'est vraiment du journalisme. On a toujours parlé d'une objectivité du journalisme et on l'a beaucoup défendu en France. Je dois avouer que ce n'est pas que je n'y crois pas, mais je suis assez pragmatique. Et ce que je vois, c'est que prenez une manifestation, par exemple. Envoyez 10 journalistes sur la manifestation. Et bien vous aurez bien 10 papiers différents. Ça montre bien que le journalisme, ça reste de toute façon tellement lié à l'humain qui l'écrit que même s'il recueille les mêmes informations, la façon dont il va vous les transmettre, ça va être en partie sa vision de l'événement. Et la data, sous ses couverts scientifiques, les données que, par exemple, vous pouvez donner la même base de données à 5 personnes différentes et elles vont produire 5 types de visualisations différentes. Donc là aussi, c'est bien la même logique, c'est que c'est une certaine vision du monde, une certaine sélection d'informations, une certaine représentation visuelle qu'on va choisir de vous donner à voir. Et je pense que là-dessus, il faut que le lecteur, comme pour tout article de presse, comme pour toute image, développe un sens critique. On dit beaucoup qu'en France, il faut absolument qu'on redéveloppe toute une culture de l'image, que les enfants acquièrent un œil critique sur le monde de la publicité, des films, etc., qu'ils voient autour d'eux. Et je trouve qu'il faudrait aussi beaucoup poser la question du chiffre et d'un œil critique sur les données dès le plus jeune âge, parce que je pense qu'on va grandir, surtout ceux qui viennent dans un monde où il y aura de plus en plus de chiffres, et c'est important que tout le monde ait un œil critique sur ces chiffres. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu philosophique ce que je dis, mais je pense que c'est hyper important de dire qu'à chaque fois que vous voyez quelque chose, ça reste une vision de la personne qui l'a produite.
Vous avez anticipé sur la question future. Ouais. Non, mais pas de souci. Non, mais où j'allais vous demander, comment vous voyez l'évolution et la pertinence, de cette discipline et les enjeux futurs. Mais là, ce que vous avez dit auparavant, c'est tout
une
à
compilation.
Fait. Ouais, c'est tout à fait pertinent. Et j'avais une dernière question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous passionne et qui vous anime dans votre métier?
Je dirais en tête. J'arrive pas à les départager. Alors, je vous en dis deux. D'abord, le travail en équipe. Quand j'ai fait mon école de journalisme, bien sûr, j'ai appris à travailler en équipe parce qu'on nous apprend à travailler comme une mini-rédaction et travailler, voilà. Alors, à la fois, on travaille les uns avec les autres parce qu'on participe à produire des textes, des photos, des vidéos pour un même média. Mais en même temps, je me rendais compte qu'on travaillait quand même tout seul, chacun sur son papier. C'était l'addition de tous nos papiers qui allait donner un journal, en fait. Et moi, j'étais assez frustrée de ça. Et aujourd'hui, ce que je trouve vraiment fort avec la data, c'est que je ne peux plus être la seule auteure de l'enquête. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, sans mes designers, sans mes développeurs, sans les statisticiens, finalement, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Donc, ça demande une certaine humilité, je pense, mais c'est surtout le sens du collectif et de se dire que l'enquête, elle sera plus forte parce qu'elle sera la conjonction de tous nos cerveaux ensemble. Donc ça, je m'y retrouve vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. C'est un nouvel et un nouvel état d'esprit pour le journalisme, l'aspect collectif. Et puis la deuxième chose, c'est je viens d'une famille où il y avait très peu d'écrits, très peu de livres en fait. Et donc ma culture, elle s'est faite beaucoup moi par les photos, la télévision, le cinéma, beaucoup par les images. Et du coup, j'ai beaucoup appris du monde en fait par les images que je regardais pendant des heures, ou les livres d'images, beaucoup la BD aussi. Et du coup, j'ai un peu, je pense, avec cette nouvelle forme de journalisme plus pédagogiquement visuel, l'impression, je pense, de perpétuer aussi cette tradition aussi des gens qui sont peut-être moins attirés par l'écrit, mais à qui on peut faire, on peut raconter plein d'histoires, on peut expliquer le monde avec des images. Voilà, maintenant elles sont interactives, elles ont des graphiques, etc. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est une sorte de perpétuation de mon passé que je ne qualifierais pas d'illettré, il ne faut pas non plus exagérer, mais où les lettres n'étaient pas très présentes.
C'est une très belle inspiration. Et c'est vrai que le premier contact de l'enfant avec le monde extérieur et, entre guillemets, le savoir, c'est l'image, finalement. Quand il ne sait pas lire, c'est l'image qui va le connecter au monde. Bon, Karen Bastien, merci beaucoup de votre participation.
De rien, de rien. Merci d'être curieux et curieuse.
Non, merci à vous de nous rendre aussi curieux avec les réalisations que vous faites. Donc on peut retrouver We Do Data sur le site internet, c'est ça? Et oui, par ailleurs, j'avais une dernière question parce que je me suis abonnée sur 365data.fr.
Donc, oh là, ça sent le SAV.
Non, pas
je
du tout.
Je les reçois pas.
Non. Ah.
Vous les recevez pas?
Si, mais pas du tout, j'avais pas de critique sur... Non, je me posais la question, en fait, comment vous sélectionnez vos datavis par jour?
Alors ça, c'est vraiment un projet un peu atypique, hein, parce que c'est un projet d'entreprise, c'est, on le fait pour nous, hein, on l'a pas vendu, il est à personne, il est qu'à nous. C'est un peu une sorte de jeu de l'esprit entre nous, entre les designers, les journalistes, de se dire, tiens, c'est marrant, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une journée de tous les jours, quoi. Et on a voulu rire un petit peu de ça et s'amuser avec la data. Notre souhait, c'était surtout de ne pas faire ça à chaud. C'est-à-dire de prendre le premier chiffre qui passe parce que c'est le matin de la journée de bidule et voilà. Donc en fait, tout ce que vous voyez est le résultat d'un très long travail en amont. On a plusieurs mois d'avance. En fait, là actuellement, pour tout vous dire, pour nous, le projet est terminé puisque toutes les images sont prêtes jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, c'est un travail où on prend le sujet, on essaye de trouver un petit pas de côté, ensuite on passe beaucoup de temps sur les sources, à trouver la bonne comparaison. Voilà, c'est un mini travail, c'est pas une enquête journalistique, hein. Mais voilà, c'est en tout cas une très bonne gymnastique de l'esprit data, voilà, pour trouver ce petit pas de côté, ce petit chiffre qui va faire la différence. Et puis après, pour nos designers, c'était surtout un très grand plaisir de travailler avec un style beaucoup plus illustré qu'on nous demande peu, hein, finalement, parce que tout le monde veut un petit peu du David McCandless, vous voyez, des formes très géométriques, pas du tout froides, mais très, voilà, avec une esthétique très, très épurée. Oui. Et voilà, j'ai des designers qui aiment dessiner, et du coup, ils voulaient réinjecter un petit peu d'images illustrées dans la data. Et donc, voilà, ils ont trouvé un ton qui leur plaît. Et voilà, c'était vraiment un exercice d'équipe qui dure depuis quasiment 365 jours. Voilà, et qui donnera lieu à un livre, puisqu'il y a un très gros éditeur qui vient de nous l'acheter. Et on est très heureux qu'un projet web comme ça ait une deuxième vie sur le papier. Donc, vous pourrez l'acheter à Noël prochain. Voilà, et l'offrir à tous vos amis.
C'est génial, c'est un peu la version du futur du calendrier qu'a ma grand-mère dans sa cuisine, vous savez, les calendriers qu'on enlève chaque jour et tout ça.
Exactement.
Et on a plaisir à ouvrir et à regarder à chaque fois la nouvelle information. Merci beaucoup, Karen Bastien.
De rien.